Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages, notre invité, le dessinateur et scénariste Christophe Blain. On va parler de sa BD Phénomène, la plus vendue de l'année, Le Monde sans fin et c'est pas terminé. Lisa-Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité parce que c'est lui aussi qui avait fait Quai d'Orsay, qui est devenu un film. Et puis Marc-Antoine Lebray sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les tactiques médiatiques. Et hier matin, vous avez été très amusé d'entendre à la radio une interview de Fabien Roussel.
De qui ?
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
Je connais pas. Non, je vous taquine, Philippe. La scène s'est effectivement déroulée hier matin. L'ex-candidat communiste à la présidentielle était l'invité de nos confrères de Sud Radio.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour Patrick Roger.
Alors l'interview politique était déjà bien engagée. Hein. Fabien Roussel avait été interrogé sur les législatives et sur le caractère extrêmement protéiforme de la NUP à laquelle il appartient, lorsque Patrick Roger lui a posé cette question.
Est-ce que vous irez casser une croûte cet été avec Émeric Caron ?
Il lui a demandé s'il irait boulotter avec Émeric Caron. Émeric Caron, ancien chroniqueur de l'émission de Laurent Ruquier qui est sur France 2 et désormais député, lui aussi, sous la bannière de la NUP et connu pour ses convictions végétariennes, à l'opposé donc de celles du leader communiste, grand zélateur de la bonne bouffe et de la bidoche. Bref, l'intervieweur a voulu illustrer là qu'il y avait au sein de la NUP des mariages qui ressemblaient à celui de la carpe et du lapin, et voilà pourquoi il l'a interrogé sur ses relations avec Émeric Caron. Seulement voilà, à l'énoncé du nom de son collègue parlementaire, Fabien Roussel a répondu ceci.
Qui ?
Patrick Roger lui a donc répété le nom, mais sans succès.
Émeric Caron.
C'est qui ?
Fabien Roussel a répondu qu'il ne connaissait pas Émeric Caron. L'intervieweur a alors cru à une farce.
Vous ne le connaissez pas, Émeric Caron, si vous le connaissez.
Mais Fabien Roussel a campé sur ses positions.
Non, Fabien, non. Bon,
Non, désolé. Non, je connais pas, non.
Alors, vous savez, Philippe, que grâce à vous, j'ai passé mon année avec les yeux rivés sur l'ensemble des chaînes de télé. Et bien que mon cerveau en ait pris un bon coup dans les gencives en termes de capacité de raisonnement, je me suis quand même souvenu d'une séquence. Une petite séquence que j'avais vue il n'y a pas si longtemps, le 1er février dernier, pour être précis.
Bonsoir Fabien Roussel, candidat.
Ce jour-là, Fabien Roussel était l'invité de l'émission C'est à vous sur France 5. Et devinez un peu. Qui était venu s'asseoir juste à côté de lui ?
Bonsoir Émeric Caron, journaliste, écrivain, auteur d'un tout premier roman.
Émeric Caron, et savez-vous ce qui s'était passé ? Eh bien, nos deux camarades s'étaient parlé.
Bien sûr, c'est pour ça que je vais m'adresser à Fabien Roussel. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Les deux hommes avaient l'air de parfaitement bien se connaître. Et c'est normal, Philippe, car il s'agissait d'une émission très importante pour le candidat communiste, d'un passage en pleine campagne présidentielle dont il avait forcément validé le contenu et était tenu au courant du profil de tous les intervenants. Donc, imaginons un peu que l'équipe de l'émission de C'est à vous lui ait dit « On a prévu d'inviter Émeric Caron pour vous interroger. » Si, il y a 4 mois, Fabien Roussel avait répondu
« Qui ?»
Et même s'il avait poursuivi en disant
« Non, très bien, non. » Bon,
Non, désolé. Non, je connais pas, non.
Eh bien, quelqu'un de l'équipe de C'est à vous lui aurait forcément expliqué qui il était. Donc, étant donné qu'il est totalement inenvisageable que Fabien Roussel ait été de mauvaise foi hier, ou qu'il ait voulu mépriser un député qui appartient au même groupe que le sien, pas vrai, Fabien ?
Là-dessus, on est d'accord.
Et étant considéré que Fabien Roussel s'est entretenu longuement à la télévision il y a à peine 4 mois avec Émeric Caron.
Émeric Caron.
C'est qui ?
On peut raisonnablement penser, Philippe, que le candidat communiste à la présidentielle est totalement caramélisé, qu'il a le ciboulot en lambeaux et qu'il ne se souvient plus de rien.
Qui ?
On peut donc se réjouir que seuls 2,3% des Français aient voté pour lui, empêchant ainsi que soit confié à sa mémoire très défaillante les codes de l'arme nucléaire, oui, la bombe atomique. Vous voyez ce que c'est, Fabien ?
Non, je connais pas, non.
Quelle chute ! Merci Bruno Donnet, on vous entend rire, vous avez rejoint dans ce studio pendant la chronique. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
Vous serez avec nous dans quelques minutes, le programme de votre indispensable.
Eh bien vous recevez un grand auteur de bande dessinée, Christophe Blain. On va parler des rapports entre la gastronomie et le destin. Et je ne parle pas de la virgule en balsamique dans le fond de l'assiette.
On est bien d'accord, vous savez qu'il a fait un livre avec Alain Passard.
Mais absolument, je vais vous en parler. Ouais.
Exactement, Olivier Benkemoun, la même question, ouais. Votre indispensable aujourd'hui.
Ben, moi je vais vous parler d'un produit qui caramélise non pas les cerveaux, mais les corps, c'est l'EPO, en tout cas le scandale de l'EPO, raconté à travers ce qui s'était passé en 98, dans un film qui s'appelle L'Équipier, qui sort, qui est déjà sorti mercredi. Et ça tombe bien, c'est le départ du Tour de France.
Dans un instant, Christophe Blain, donc, qui va nous parler d'Un monde sans fin, cette BD. Mais d'abord, musique, c'est la chanteuse américaine Lizzo sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Christophe Blain.
Bonjour Philippe Vandel.
Content de vous rencontrer, dessinateur, scénariste de BD. Vous êtes fait connaître du très grand public avec la BD Quai d'Orsay. Pourquoi je la cite ? 500 000 exemplaires vendus avec les deux tomes qui racontaient la vie quotidienne au ministère des Affaires étrangères, qui se trouve Quai d'Orsay justement, et qui est devenu un film avec Thierry Lhermitte dans le rôle de Dominique de Villepin. Mais avant ça, je n'oublie pas que vous aviez obtenu en 2002 le prix du meilleur album Angoulême pour Isaac le Pirate et que vous avez repris les aventures du célèbre lieutenant Blueberry. On en reparlera. Mais si on vous reçoit, c'est pour voler au secours de la victoire, pour parler de cette BD phénomène, la plus vendue de l'année, Le Monde sans fin, que vous avez co-signé avec Jean-Marc Jancovici, c'est chez Dargo. Déjà 330 000 exemplaires vendus et c'est pas fini. Alors je vais présenter l'objet. Vous avez vu le son qu'il fait ? Je l'ai pesé ce matin. 1,2 kg, 180 pages grand format, 27 euros, projet très ambitieux qui part d'une rencontre, d'un trajet en voiture avec ou sans la clim, j'ai pas bien compris, et d'une rencontre avec des climatologues. J'ai assez parlé, c'est à vous.
Oui, donc...
Comment c'est né?
Alors oui, c'est né dans une... Le point de départ était dans une voiture sans climatisation parce que justement, il faisait pas trop chaud. C'était en Normandie. Je faisais un trajet dans une petite voiture de location en Normandie avec ma compagne. Et à ce moment-là, il y avait une canicule à Paris. Et on était en train de la fuir, mais sans s'en rendre compte, je ne savais pas qu'il y avait une canicule à Paris. Et j'ai lu les premiers articles. Ça semble étonnant maintenant, mais c'était il y a 4 ans exactement. Enfin, c'était au mois de juillet-août 2018. La canicule, à l'époque, on ne mettait pas en lien les épisodes de canicule et le réchauffement climatique. C'était la première fois qu'on le faisait dans des grands médias. Mmh. Ça semble étonnant maintenant. Mais en fait, c'est assez récent. Mmh. On ne parlait pas du réchauffement climatique comme on en parle maintenant.
À l'époque, quand vous prenez pour le dernier des crétins, on vous disait « attention, il ne faut pas confondre le climat et la météo ».
C'est ça.
Je me souviens très très bien, il y avait une interdiction de lier l'un à l'autre, il y a quelques années.
Eh bien voilà, donc vous alimentez exactement ce que je... Mais oui, et donc ma compagne m'a lu un article, une interview de Jean Jouzel, qui est un glaciologue.
Et un membre du GIEC.
Voilà, et un membre du GIEC, qui est l'observatoire de l'ONU du climat. Pour l'ONU, et il disait dans cette interview, dans un média de grande diffusion, qu'on connaîtrait des températures de 50 degrés à Paris d'ici 2050. Et je me suis dit, moi je savais, je connaissais le travail de Jean-Marc Jancovici, je connaissais le problème du réchauffement climatique, mais je le renvoyais à plus tard. J'en faisais une espèce de déni. Mmh. Et là, je me suis rendu compte que ça a pris à ce moment-là quelque chose de... Je ne sais pas, c'est devenu réel.
Mais comment est-ce qu'on en fait ? Parce que vous êtes auteur de bande dessinée. Comment est-ce qu'on en fait une bande dessinée ?
Alors,
parce qu'il ne suffit pas de se dire ça. Il faut avancer et vous avez rencontré Janko, comme on l'appelle dans le métier. Personnage extraordinaire. Je vais le dire tout de suite. Jean-Marc Jancovici, c'est un personnage extraordinaire. C'est un polytechnicien qui a surtout inventé un concept qui a changé la face, la perception de l'humanité entière. Je pèse mes mots. Il est l'inventeur du concept de bilan carbone.
Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui a inventé une méthode pour des particuliers, une entreprise, enfin différents organismes ou entités, pour calculer les émissions carbone que chaque personne ou chaque groupe de personnes
pouvait émettre. J'explique le principe. Avant ça, les gens disaient « Ah mais moi, je pollue pas, je roule en voiture électrique ». Mais lui dit non, comment on a fabriqué la voiture électrique ? Comment on a fabriqué la batterie ? Et comment on produit l'électricité ? Si l'électricité de votre voiture électrique est produite dans une centrale à charbon, c'est juste une transformation d'une énergie très mauvaise pour le climat. Voilà la conception en peu de mots qu'on doit à Jean-Marc Jancovici.
Absolument.
Mais comment ça devient une BD ?
Alors ça devient une bande dessinée parce que d'abord ça a commencé par une angoisse. Souvent l'angoisse est moteur de la création, qui a duré une année, où je me suis dit mais qu'est-ce que va devenir nos vies ? Alors il faut savoir que Jean-Marc Jancovici, le travail de Jean-Marc Jancovici m'a été présenté par mon frère. Je suis très proche de mon frère et il m'en parlait depuis des années. Lui, il suivait son travail depuis une dizaine d'années. Et un an plus tard, au bout d'un an, à force de parler de ça, il m'a dit, je le raconte dans les premières pages de la bande dessinée, il m'a dit « Mais fais un album avec Jean-Marc Jancovici ».
Voilà.
Et j'ai eu un moment de flottement qui a duré 5 secondes, parce que je savais, en fait, moi-même je sentais que j'avais envie de faire ça, et je lui ai dit « Oui, je vais le faire », en sachant que ça allait être un travail énorme.
C'est voilà. Un travail énorme, c'est absolument prodigieux. Il y a des chiffres complètement dingues. Je ne sais même pas par quoi commencer, mais tout est fou. Et la manière qu'il a de présenter les choses, c'est qu'il rend totalement visibles des choses absolument complexes sans jamais céder à la facilité d'une explication bâclée. Par exemple, il vous dit l'énergie, c'est l'énergie. Par exemple, deux hommes ont la puissance de 100 watts. Oui, non plus de 100 watts. C'est la puissance de deux hommes. Un cheval, c'est 1000 watts, donc ça fait 20 hommes. Et imaginons que pour nous, il y ait des esclaves. Parce que votre aspirateur, c'est un esclave. Quand vous avez besoin de lui, il tourne, il fonctionne. Il a converti tout ce qui se passe en journée d'esclaves. Et là, c'est complètement dingue. Et vous les illustrez. C'est absolument prodigieux, cette page.
Un des très, très grands talents de Jean-Marc est de vous rendre intelligent. C'est-à-dire qu'il a un talent de vulgarisateur dans le sens où il a énormément d'imagination et il utilise des images, des analogies pour vous faire comprendre comment les choses fonctionnent et des choses qui peuvent être très complexes. Et notamment, l'image des esclaves est très parlante parce qu'il dit, lorsqu'on utilise un petit mixeur à soupe banal qu'on a dans sa cuisine, on déploie une énergie qui correspond à 4 cyclistes
en train de pédaler.
Des cyclistes qui montent un dénivelé de 2000 mètres, la moyenne de force dans les cuisses qu'ils vont devoir développer. Et quand c'est un ascenseur, ça va être 50 cyclistes.
Exactement. Alors, je vais finir par cette conversion avant qu'on entende Lisa Marie. L'année d'éclairage d'un logement, c'est 800 jours esclaves. L'ensemble des appareils ménagers d'un foyer, 5000 jours esclaves. Le plus impressionnant, la fabrication d'un smartphone, 400 jours, fabrication d'ordinateur. C'est comme si un esclave travaillait 5000 jours pour faire votre ordi, et c'est là où je veux en venir. Le chauffage d'une maison de 100 mètres carrés, c'est entre 20 000 et 40 000 jours. Le plus important vient là. Il vous dit, tu te rends compte alors que les économies d'énergie significatives n'ont rien à voir avec éteindre la lumière ou utiliser des tasses à café recyclables. On se rend compte que nos petits gestes du quotidien, ça sert quasiment à rien. C'est encore plus complexe que ça. Vous étiez déjà comme ça, curieux, quand vous étiez enfant ?
Oui, j'avais une forme de curiosité. J'avais beaucoup d'imagination, en tout cas.
C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. On est avec Christophe Blain.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média. On est en compagnie de l'auteur de BD Christophe Blain. On parle de ce monde sans fin, publié chez Dargaud, qui continue à se vendre, une édition phénomène. On va mieux vous connaître, Christophe, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, portrait de notre célébrité avant justement sa célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Christophe Blain.
Bonjour.
Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs dessinateurs de BD. Vous avez obtenu de nombreux prix, dont 3 au Festival de la BD d'Angoulême. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Christophe Blain, vous êtes né à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, et vous avez grandi à Gennevilliers et à Asnières, une enfance en banlieue, donc des parents instituteurs. Et dès petit, ce qui vous fascine, je crois, c'est l'atmosphère des ateliers mécaniques, les odeurs d'essence, les publicités d'huile mobile en plaque émaillée. Vous avez connu tout ça avec vos arrière-grands-parents et également avec votre grand-père menuisier charpentier dans le Loiret, c'est bien ça ?
C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Pourquoi ça vous touche, cette évocation ?
Déjà de penser à mon grand-père et ici, là, je ne m'attendais pas. Et de son atelier qui sentait bon le copeau de bois. C'est toute mon enfance et j'étais complètement fasciné par ce grand-père et par son atelier. Oui,
voilà. Et il travaillait à la main ?
Non, il y avait des grosses machines. Ils étaient 8 dans son atelier. Ouais.
D'accord, c'était juste pour faire une incise sur le bilan carbone.
Vous aimez donc les garages et les voitures. La 204 avec banquette en sky rouge de votre grand-père. La Dauphine à flanc blanc de votre grand-mère. Wow. Enfant, vous jouez avec des petites voitures, particulièrement les cabriolets américains. Et cette passion vous est restée en grandissant, je crois.
Oui, je me l'ai...
Vous collectionnez encore ?
Les petites voitures, oui, absolument.
Ah, les petites, mais pas les grosses.
Les grosses,
aussi. Il n'ose pas le dire parce que ce n'est pas politiquement correct. J'ai vu à votre tête que vous en avez.
Hein ? Peut-être.
Votre passion, Christophe Blain, l'univers des westerns. Enfant, vous jouez au cow-boy avec votre frère et vous regardez ça. C'est la série Les Mystères de l'Ouest ?
Oui, absolument. Non, j'étais complètement fasciné. J'avais 5 ans. Oui, j'étais fou de cette série.
D'ailleurs, vous rêvez d'être un cow-boy et il paraît que cette passion vous est restée là aussi. Vous possédez tout l'attirail du cow-boy, les bottes, le chapeau et même la carabine.
C'est vrai. Mais ça me sert de documentation, c'est pas du tout pour jouer. Attention, c'est professionnel. Hein. Je dessine des westerns, donc il faut que j'ai de la doc.
Parce que vous pensiez qu'on imaginait que vous tiriez sur les voisins qui font trop de bruit.
Avec le chapeau et les bottes.
Oui, oui, non, 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 je fais ça tout à fait sérieusement. Faut pas...
Revenons à votre enfance. Vous aimez donc l'univers des westerns à la télé, mais également dans vos lectures avec le lieutenant Blueberry, le personnage créé par Charlie et Giraud. Je crois que deux albums vous marquent particulièrement, La mine de l'allemand perdu et Le spectre au bal d'or.
Ah bah c'est les albums les plus mythiques, c'est le Sgt Pepper, c'est le Sgt Pepper de la bande dessinée. Oui, tous ces albums-là sont complètement mythiques et je les ai. Et c'est comme Sgt Pepper d'ailleurs, je les ai découverts sans savoir qu'ils étaient mythiques quand j'étais petit. Donc c'est formidable.
Sauf que personne reprend les Beatles, alors que vous avez repris Blueberry, on en parlera tout à l'heure. Ce qui est quand même assez incroyable d'avoir ici le personnage qui fait vivre ce héros mythique.
Il y a aussi Lucky Luke, un autre cow-boy de bande dessinée. Christophe Blain, vous êtes également fan de cinéma depuis très longtemps. Les films de Truffaut, les premiers Star Wars de George Lucas. Mais votre film culte, celui dont vous connaissez les répliques par cœur, c'est La classe américaine d'Azanavicius. Je crois, si je vous dis on va manger des chips, t'entends des chips.
Et pourquoi tu fais la gueule quand je te dis que tu vas manger des chips? Voilà, c'est ça. Oui, c'est Charles Bronson. Enfin, c'est Charles Bronson qui dit ça à Henri Fonda.
Je reviens à votre parcours, Christophe Blain, votre parcours scolaire, le bac en poche. Vous étudiez en école d'art, notamment aux Beaux-Arts de Cherbourg. Vous avez 20 ans lorsque vous êtes publié pour la première fois avec un carnet de voyage au Bangladesh. Et pour cette première publication, vous recevez 5000 francs, je crois.
Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Oui, en francs, oui, oui. Ça veut dire que je suis vieux, ça.
Ouais. Non, ah non, je ne me permettrais pas.
Non, ça veut aussi dire que vous étiez mal payé.
Oui, enfin, je ne voyais pas ça comme ça à l'époque.
Bien sûr.
Non, j'étais tellement content. Enfin, ça m'a fait bizarre d'aller au Bangladesh quand même. Je n'avais jamais été plus loin que l'Irlande à l'époque. J'avais 20 ans et ça a été un choc.
Puis vous êtes appelé pour votre service militaire à la marine alors que vous souffrez du mal de mer.
Oui, c'était terrible. Et je pensais m'amariner et j'ai découvert que je souffrais de nopathie chronique, c'est-à-dire que je ne peux pas m'amariner en mer. Je suis malade. Si ça bouge,
je sais pas ce que ça veut dire m'amariner.
Amariner, ça veut dire qu'on supporte le mal de mer. C'est-à-dire que généralement, les gens ont tous le mal de mer. Au bout de 3 jours, ils s'habituent.
D'accord. Mais pas vous.
Pas moi.
De ce service militaire à la marine, vous en tirez des croquis qui vous ouvrent les portes des maisons d'édition. Christophe Blain, vous publiez Carnet d'un matelot, puis Le réducteur de vitesse, primé au festival de la BD d'Angoulême. 2 ans plus tard, le premier tome d'Isaac le pirate paraît, à nouveau récompensé à Angoulême. C'est votre premier grand succès, le premier d'une longue série. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez. C'était émouvant de vous voir ému.
Ah mais oui, je suis très impressionné qu'on ait fait une enquête aussi poussée et aussi juste sur moi.
Culture Média continue, on a plein de choses à dire et plein de choses à apprendre de la part de Christophe Blain. Merci beaucoup Lisa-Marie Marquez, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Avec Christophe Blain qui signe Le Monde sans fin, livre absolument phénoménal et aussi phénomène d'édition, 330 000 exemplaires vendus et c'est pas terminé, c'est co-signé de ce polytechnicien, l'inventeur du concept de bilan carbone, il s'appelle Jean-Marc Jancovici, page 49. Vous pouvez nous regarder sur europe1.fr, il y a la courbe de la population présente sur la Terre depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ et c'est absolument sidérant, je vais essayer de le montrer devant la caméra, c'est-à-dire que ça monte tout doucement et tout d'un coup on a l'impression qu'il y a une planche qui a été posée droite. Ça monte, c'est même pas en termes mathématiques, c'est même pas une exponentielle, ça s'appelle une hyperbole, ça veut dire qu'un jour on va être trop nombreux et un jour dans pas très longtemps.
Oui. Le problème, c'est que dans ces cas-là, la nature s'autorégule. Et si on ne prend pas les devants, si on n'anticipe pas, ce qui est très difficile, c'est la nature qui anticipe. Donc ça veut dire qu'elle régule un surplus de population par la famine, la pandémie, qui est un des moyens les plus efficaces encore que la guerre. Et c'est très effrayant. Il y a des scientifiques du MIT qui ont fait des études là-dessus à partir des années 70 et qui ont parlé du réchauffement climatique et de la surpopulation et qui annoncent des catastrophes assez, qui annonçaient à l'époque des catastrophes qui se vérifient au fur et à mesure des années parce qu'ils ont fait ces études-là il y a 50 ans.
Ouais. Et on se rend même compte que bientôt la Terre ne suffira pas, qu'elle ne sera pas assez grosse, qu'ils pensaient absolument impensable. Je ne parle même pas du temps préhistorique, mais il y a encore 20 ans, on ne pensait pas que la Terre n'était pas assez vaste. Les sujets de société et de vie privée s'invitent dans votre livre, là où on ne les attend pas. Par exemple, un énorme facteur de pollution de la planète, surtout dans les pays industrialisés, surtout dans les grandes villes, le divorce, les couples qui se séparent, racontez.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on s'aperçoit que le fait d'avoir une liberté auquel qu'on semble, qui nous semble tout à fait naturelle et à laquelle on est habitué, en réalité a un coût énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'une famille, un couple se sépare avec une famille, il va y avoir deux appartements. Voilà. Avant, il y en avait un et on avait deux appartements. C'est-à-dire que la vie qu'on avait autrefois, où les gens se regroupaient dans un lieu et étaient plus nombreux dans un lieu plus petit, c'est parce qu'il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour se chauffer. Là, maintenant qu'on a pris l'habitude d'avoir, on se perd, c'est des luxes, c'est des choses qui semblent tout à fait naturelles, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en réalité, ça prend de la place et donc de l'énergie.
Deux appartements, il faut les chauffer, et aussi de la vaisselle, de machines à laver, de télévision, de tout ce qu'on voudra, des placards en double, tout en double.
Oui, c'est une manière.
Vous dites, une séparation augmente de 60% la consommation d'énergie pour chaque ex-conjoint.
Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la liberté individuelle, qui semble tout à fait inaliénable et naturelle, en réalité, a un coût énergétique. C'est une manière de dire que la façon dont on vit, il ne s'agit pas du tout d'un problème moral, la façon dont on vit, il faut se rendre compte qu'elle n'est pas, elle a un impact sur les ressources et sur les ressources de la planète. Elle a un impact sur les ressources de la planète.
Et on va parler des chiffres de l'informatique, c'est absolument saisissant. On va parler de cinéma, ça va vous plaire parce que je sais que vous êtes cinéphile. Bonjour Olivier Benkemoun.
Oh bonjour Philippe.
Votre indispensable cinéma, c'est L'Équipier, film qui est en salle depuis mercredi.
Oui, et qui est un film tout à fait d'actualité car il vous emmène sur la ligne de départ du Tour de France. Mais pas, vous aimez bien les trompes comme ça.
J'adore.
Mais pas n'importe quel départ. Le premier départ du Tour qui s'est déroulé hors Europe continentale, Dublin en Irlande.
Dublin quoi. Dublin. Non, c'est pas Dublin, mais c'est Dublin.
C'est bon, Dublin. Musique irlandaise et un air de kermesse pour le départ du Tour de France 1998. Et 98, sur le Tour de France, c'est l'année où a éclaté un certain scandale.
L'affaire Festina prend de plus en plus d'ampleur sur le Tour de France. Et ça n'est, semble-t-il, pas près de s'arranger.
Le dopage, c'est d'abord la malhonnêteté. Ça consiste à tricher.
Le dommage, ça consiste à tricher. Comme le disait Jacques Chirac après une étape suivie dans son village de Saran, en Corrèze. Saran, que vous ne verrez pas dans le film. D'ailleurs, ce que raconte le film, ce n'est pas la triche. C'est l'enfer de la drogue pour le corps de ses athlètes. On va suivre un coureur, il s'appelle Dom. Il est en fin de carrière, il a 39 ans. Il porte encore beau, mais il est ce qu'on appelle un domestique. C'est le coureur qui n'a pas le droit de passer la ligne d'arrivée. Jamais il n'est autorisé à gagner une étape. Jamais le bouquet de fleurs, jamais la bise, jamais le podium. En revanche, son job est intense. C'est de protéger le leader des attaques, de lui donner constamment le rythme et à la fin, de le faire sprinter au bon moment en l'entraînant dans sa roue pour lui donner l'aspiration. C'est comme dans la Formule 1. Il est aspiré pour passer la ligne d'arrivée. Et ce gars-là, il doit pédaler, pédaler et encore pédaler. Et s'il ne pédale plus, il n'a évidemment plus rien à faire dans l'équipe. Et c'est là qu'arrive le médecin et son EPO.
Si tu ne le prends pas, tu ne le gagnes pas.
Pourquoi risquer ta vie ?
On le fait tous.
Ce n'est même pas pour gagner.
Tu es un perdant. Un perdant professionnel.
Professional loser, comme on dit à Dublin. Le médecin dans ce film, c'est pas le portrait d'un horrible type qui fait des piqûres, et encore des piqûres, c'est plutôt une nounou. Une ancienne gloire du cyclisme qui s'est reconvertie, qui connaît la souffrance du coureur et qui veille sur ses petits à qui on va demander des efforts qui sont véritablement surhumains. C'est ça qui est intéressant. Au fond, c'est le contre-champ. Attention, à aucun moment, évidemment, il est dit que le dopage, c'est génial. Au contraire, on montre les crises d'angoisse, ce qu'est la réalité du dopage, qui fait baisser, notamment, moi, c'est ce que j'ai appris, ça fait baisser le rythme du cœur pendant le sommeil, à tel point que le personnage doit se réveiller la nuit pour pédaler et faire repartir son cœur. C'est une abomination. Encore une fois, ce film, réalisé par l'anglais Kieron G. Walsh, avec de très belles images d'efforts, de courses, de pelotons, ne fait pas l'apologie du dopage, mais montre sa face noire et surtout dit constamment que le cyclisme est d'une violence absolue, mais absolument terrible pour les organismes et qu'il faut un corps et un mental de dingue pour faire le Tour de France. Je vous l'ai remis, la petite trompette.
J'adore.
En version cucaracha. La victoire, et à celui qui souffrira le plus, c'est de Eddy Merckx.
Voilà. Le film s'appelle L'Équipier. Il est de quelle nationalité? Puisqu'on a traduit
Ah oui, vous avez remarqué qu'il y avait une traduction dans la bande-annonce.
Oui, c'était Belgo-Luxembourgeois.
Belgo-Luxembourgeois, irlandais.
En rendez-vous pour ce week-end pour terminer.
Oui, c'est la fête du cinéma à partir de dimanche. 4 euros la place pour tous. Ça doit redonner des couleurs à la fréquentation dans les salles qui a baissé d'environ 20%. Alors, il y a Top Gun, il y a Elvis, il y a Jurassic World, il y a Buzz l'éclair. Les blockbusters américains sont évidemment des moteurs, mais il y a plein d'autres films à découvrir, dont on a parlé ici. Vous en avez parlé, hein. Nouveau film de Jérôme Commandeur, Irréductible, génial, en roue libre avec Marina Foïs.
J'aime le cinéma.
Ici, j'aime le cinéma.
J'aime le cinéma.
On va aller à la fête du
cinéma.
On va aller à la fête du
cinéma. Voilà. Merci Olivier Benkemoun. Disons, le cyclisme, pour une fois qu'il y avait un bon bilan carbone, il y a le dopage.
Oui, mais ça veut dire, ça montre quelque chose de notre monde. C'est-à-dire qu'on est dans pris dans une course angoissante dont on n'arrive pas à se sortir. L'idée de la croissance, de la fuite en avant. On est obligé de faire toujours plus et d'aller toujours plus vite. Et d'être dans un monde qui est terriblement angoissant. Je trouve que c'est une analogie de ce qu'on vit. Et c'est parce que si les coureurs ne font pas ça, ils sont pris dans un cercle qui les emmène vers le bas. Enfin, ils n'arrivent pas à s'en sortir en réalité. On est dans un monde extrêmement complexe où on s'aperçoit que si on devait ralentir, ça voudrait dire aussi accepter un certain nombre de sacrifices ou une façon de voir différente qui nous perturberait par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître et ce qui nous est presque imposé.
On a vu quelque chose dont on n'aurait jamais pensé qu'on allait parler. Ça se passe en Italie à cause de la guerre en Ukraine. Il y a le gaz et le pétrole russe qui n'arrivent plus. Et le gouvernement a demandé à ce qu'on arrête les clims au-delà de 25 degrés. Et là où c'est complètement dingue, il y a des gens qui protestent contre ça sans se dire, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas de clim et ça gênait personne. Et le monde est vraiment totalement cul par-dessus tête, ce que vous montrez dans le livre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans Le Monde sans fin, c'est qu'il y a des solutions. C'est le dernier quart du livre. On va en parler. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Christophe Blain qui signe Le Monde sans fin, et vous allez bien vous entendre avec Laurent Mariotte. Rebonjour Laurent.
Bonjour Philippe.
Vous détestez l'un Bonjour, comme Christophe. L'autre les tomates qui ont fait 4000 km en camion pour arriver dans notre assiette.
Oui, c'est de la contrefaçon, ça, c'est la tomate long life. Ouais.
Voilà. Et vous aussi, vous dénoncez ça, le bilan carbone de la bouffe industrielle.
Bah, c'est-à-dire que oui, il faut qu'on regarde la façon qu'on a de manger et on va être obligé de toute façon de la réformer parce que en réalité manger on est obligé d'utiliser des énergies fossiles parce que le transport se fait essentiellement grâce aux énergies fossiles, c'est-à-dire grâce au pétrole.
Laurent Mariotte, vous étiez profité de la présence de Christophe Blain pour nous rappeler que le dessin et la cuisine ont aussi des liens privilégiés.
Et comment ? Et je ne parle pas du plat de spaghettis que la Castafiore renverse sur un de ses geôliers. Hein. Je parle justement du dessin qui peut être un outil en cuisine. De nombreux chefs, effectivement, griffonnent, font des croquis avant de dresser leur plat. Ils pensent aussi au visuel avant de...
pâtissiers, moi.
Ah non, non, aussi de nombreux cuisiniers, ils s'amusent à faire le dressage, la répartition du légume, le taillage en biseau, la petite viande taillée en sifflet qu'on va mettre au fond de l'assiette. Il y en a pas mal. Il y a Eric Guérin, la mare aux oiseaux, qui fait ça à Saint-Joachim, en Loire-Atlantique. Antonin Bonnet, chez Quinsou, rue de la Baie-Grégoire à Paris. Léa Fleuriot, au restaurant Le Cadoré à Paris. C'est vrai qu'il pense au goût, mais aussi au visuel. Oui.
Et il arrive, vous avez un album à côté de vous, que les dessinateurs croquent le monde gastronomique. Et c'est le cas de Christophe Blain.
J'adore cet album. C'est l'album de Christophe. Ça s'appelle En cuisine avec Alain Passard. C'était en 2011. Et comme un grand reporter, vous avez suivi le chef légumier Alain Passard au restaurant L'Arpège, vous avez pris des notes à table, vous avez mangé en cuisine avec Alain Passard, vous l'avez vu créer. Résultat, il y a une composition qui est fantastique et qui est de saison. Haricots verts, pêche blanche et amandes fraîches, betteraves rouges au basilic pourpre et mûres à la fourchette. Dur métier parfois, hein, Christophe Blain quand même.
Celui de cuisinier ou celui de dessinateur?
Celui d'assister à la création de plats comme ceci, en fait.
Oui, non, c'est pas un livre sur lequel j'ai énormément souffert. J'ai beaucoup mangé, parce que je mangeais en cuisine et je mangeais après avec Alain Passard en salle. Et j'ai fait ce livre pour ça, d'ailleurs, pour manger.
Mais bien sûr, et c'est très bien fait parce que les sensations sont bien décrites, elles sont justes. Moi, j'ai passé du temps aussi en cuisine avec Alain Passard. Et on sent l'énergie, on sent son rapport aux produits. C'est quelqu'un qui prend du temps de regarder les produits, de les sentir, de les toucher. Et c'est vraiment un artiste qui compose et qui va parfois à la simplicité, on se dit. Et il fait des compositions auxquelles on n'aurait pas pensé. Il est actuellement dans son potager de la baie du Mont-Saint-Michel. Et il vous salue parce qu'il passe beaucoup de temps dans ses potagers. Je l'ai eu hier au téléphone.
Il y a d'autres BD qui s'intéressent à la gastronomie, Laurent ?
Oui, l'incroyable histoire de la cuisine, de la préhistoire à nos jours, 500 000 ans d'aventure, c'est aux arènes BD, c'était paru en 2021. C'est une bande dessinée qui est consacrée à l'histoire de notre alimentation. C'est le journaliste Benoît Sima qui a fait ça avec des dessins de Stéphane Douet. C'est un défi, hein. 240 pages pour résumer l'histoire de la cuisine. Ça va de la découverte du feu au vegan. Vous imaginez un petit peu, la palette, elle est large. Hein. Un dessin très réaliste, c'est très documenté. L'importance du décor, les tenues vestimentaires, tout est très bien sourcé, comme on dit.
Qu'est-ce qu'on découvre alors au fil des planches ?
Ah bon, on va découvrir l'histoire du veau maringo, par exemple. C'est suite à la victoire de l'empereur Napoléon sur une bataille. C'était un poulet au départ. On a même raconté que c'était du cheval. Ah. C'était un poulet qui est devenu le veau maringo. Pas. Exactement. Et puis, ça raconte aussi l'histoire de la betterave transformée en sucre par un procédé industriel. C'était la première fois en 1812 qu'on a transformé la betterave sucrière en sucre. Ouais.
Et vous m'avez dit, j'ai un autre auteur de BD qui donne envie de cuisiner.
Ah bah Christophe Blain doit le connaître, c'est Guillaume Long.
Oui, on s'est déjà rencontré avec Guillaume.
Il alimente un blog gastronomique qui est hébergé sur le site du journal Le Monde. C'est le seul auteur qui dessine la cuisine du quotidien. Sa série, ça s'appelle « À boire et à manger ». Il raconte ses déboires et ses succès en cuisine. C'est un bon cuisinier, hein. Il s'amuse autant sur ses planches de BD que sur sa planche à découper. Je l'ai rencontré et il m'a appris à cuisiner les sardines en boîte au four, figurez-vous.
Attendez, mais comment on fait ? Ça peut tout exploser, non ?
Non.
Il les met au four et il revient une heure plus tard.
Alors, bonne question, Philippe. Bim. On ouvre la boîte pour pas que ça explose, déjà. Ouais. On ouvre la boîte. Non, mais faites ça ce week-end, c'est hyper simple. Vous prenez une boîte de sardines, des bonnes, hein, millésimées même si vous pouvez. Vous retirez l'huile d'olive, vous la gardez dans un petit bol, de la sauce soja, de l'ail haché, du gingembre haché, un filet de citron. Vous remettez tout ça dans la boîte de sardines, 5 minutes au four à 200 degrés avec du pain grillé. C'est fantastique pour l'apéro, ça.
Les petits plats de Laurent Mariotte.
Oui.
Petit instant promo, ça me fait tellement plaisir. Juillet, août, il y a quoi en une ? En une, il y a vous. Déjà, en une, il y a Laurent Mariotte.
Il y a la Provence, surtout.
Ouais, le barbecue, la plancha, ça va chauffer. C'est rétro, on adore. Ma cuisine du soleil. Quel angle vous avez privilégié pour ce numéro ?
Des reportages en Provence pour aller à la découverte de l'huile d'olive, des capres avec un producteur de capres. C'est très rare, vous savez, les capres en France, ça prend beaucoup de travail pour les cueillir. Donc, on parle entre autres des capres et de l'huile d'olive.
Ouais. Bon, je pense à tous les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune conscience, qui disent mais c'est facile les capres, il y en a au supermarché.
Non, oui, mais il faut les cueillir.
Non, voilà, c'est plus compliqué que ça, il faut les trouver. Demain, la table des bons vivants, ce sera à 11h.
On vous emmène sur la route à la découverte des routiers partout en France. Les routiers se réinventent, il y en a encore 600 et il y a de beaux menus faits maison.
J'adorais.
Et Didier Barbelivien sera des nôtres. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Mariotte. On
Merci
se retrouve à,
vous.
À la rentrée.
Ah bah, Culture Média. Et avec joie.
Plaisir partagé. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray va nous rejoindre. On reste avec Christophe Blain. On a encore plein de questions à lui poser et notamment des choses positives. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Christophe Blain, Le Monde sans fin, c'est ce phénomène d'édition, cette bande dessinée, je l'ai dit, 1,2 kg. Déjà 330 000 exemplaires vendus. C'est d'une richesse intellectuelle phénoménale et ça marche. Tous les gens qui disent pour que ça marche, faut que ça fasse pas réfléchir, c'est exactement l'inverse. Ça fait réfléchir et ça se vend. Vous ne pouvez pas être plus heureux que de voler au secours de votre victoire. Ce matin, les questions que j'ai écrites, c'était sur mon ordinateur, comme chaque matin. Je pense à tous les gens qui nous écoutent devant leur ordi, qui se disent « moi, je ne pollue pas, je ne fais qu'utiliser de l'électricité. Les chiffres que vous donnez font froid dans le dos, c'est page 80. Les émissions de dioxyde de carbone dues au digital sont équivalentes à celles de toute la flotte mondiale de camions. Deux fois la marine marchande mondiale ou alors les deux tiers des voitures particulières et utilitaires mondiales. Donc quand on pense faire le bien parce qu'on a seulement allumé son ordi, il faut réfléchir à ça. Tout n'est pas sinistre. Vous pointez les limites de l'éolien qui peuvent marcher tout le monde. Si on voulait que la France soit irriguée en électricité sur l'éolien, il faudrait mettre des éoliennes partout en France, une tous les kilomètres. Et je ne vous attendais pas sur ce terrain-là, presque une défense du nucléaire.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait... nous sommes des animaux et nous ne ressentons, nous ne comprenons que ce que nous ressentons. Et parfois, ce qu'on ressent, en fait, n'est pas ce qui se passe réellement. Vous parliez des ordinateurs, on a l'impression que c'est quelque chose de dématérialisé, donc qui ne pollue pas. On voit un camion, ça pue, il y a des fumées noires, on se dit ça pollue. Quelqu'un qui vit à la campagne où il n'y a rien autour de lui, il prend sa voiture et il a l'impression qu'il ne pollue pas. Quand on est à Paris, on comprend ce que c'est que la pollution. Or, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'émission de dioxyde de carbone, elle est invisible. Elle est invisible, elle part dans l'atmosphère et elle y reste. C'est un gaz qui est stable et qu'on ne sait pas à quel moment on émet et dans quelle quantité on émet. Il faut savoir, par exemple, que quand on parle du nucléaire ou de l'éolien, pour prendre cet exemple-là, une éolienne, ça a l'air extrêmement sympathique et extrêmement propre. Je prenais le TGV encore hier, je voyais des éoliennes tourner dans les champs. ça a l'air formidable. C'était dans la Beauce, etc. Il y avait de la place, elle tournait, on passe comme ça, on a l'impression que c'est très propre. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut savoir que, pour prendre l'exemple du nucléaire, ce qui est très particulier, c'est que le nucléaire utilise une très petite quantité de matière. Il l'utilise d'abord pour sa structure, pour fabriquer la centrale, et la matière même de l'uranium, c'est en très petite quantité par rapport à l'énergie qui est produite. Or, l'éolien, c'est un des aspects, un seul des aspects, je n'en parle que d'un seul.
Bien sûr.
L'éolien, pour fabriquer des éoliennes, il faut beaucoup plus de minerais, il faut beaucoup plus d'utiliser de ressources, et qui produit beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins efficace. Donc, en fait, le bilan carbone des éoliennes est bien moins bon que celui d'une centrale nucléaire. Mais il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects
tout le recul
que cela.
Tout le recul que vous venez d'évoquer, évidemment, dans ce livre, évidemment, il y a aussi les aspects négatifs du nucléaire. C'est absolument passionnant. Je vous interromps parce qu'il est 10h52. C'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les matins, il y a des stars qui sont là spécialement pour notre invité. Aujourd'hui, Christophe Blain, l'ancien chef de l'État François Hollande, est venu vous dire quelques mots.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Dites, monsieur Blain, quand vous parlez du monde sans fin, de quelle fin vous parlez? Car moi, j'ai faim tout le temps. J'ai faim le jour, la nuit, entre les repas et même pendant les repas. Et depuis le mariage, depuis que je me suis marié, je suis joufflu comme un écureuil qui fait des réserves. Donc, vous pouvez m'indiquer la route de ce monde sans fin et si possible, sans prendre l'itinéraire Paris-Brest. Merci, monsieur Blain. Bonjour.
Alors, Christophe Blain, je crois que vous avez illustré la chanson Blanche-Neige de Brigitte Fontaine et elle a tenu à venir vous remercier.
Waouh, Christophe. Va dans la blanche neige que t'as dessinée avec des lignes et des traits. Ça m'a donné envie de sniffer toute la pochette. D'ailleurs, si dans les sept nains, il y en a un qui s'appelle Hatchoum, c'est qu'il en a un peu trop pris de cette blanche neige. Ouah !
Autre chanteuse, artiste, Ariel Dombal est également là ce matin, Christophe Blain.
Hola, Felipe. Hola, Cristobal. Christophe, je trouve formidable que vous parliez des changements de notre planète. El planeta transformar aussi rapido que ma cabeza. En plus, trop de pollueurs déversent du plastique dans les océans. Mas plastico en oceano y en ma pometas.
La série de BD Quai d'Orsay, j'en ai parlé, était centrée sur un personnage clairement inspiré de Dominique de Villepin. Gérald Darmanin, du coup, semble un peu jaloux.
Et pas du tout. Bon, d'accord. Villepin était grand, beau, intelligent, élégant, adorait les femmes. Et il a fait un discours mémorable à l'ONU, mais à part ça, je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi. La guerre en Irak, c'était du pipi de chat à côté des hooligans anglais. Responsable, je le rappelle, des incidents au Stade de France, de l'inflation, des pluies de sauterelles et du dernier album de Kinvey. Alors j'attends ma BD hommage, monsieur Blain. Bonjour.
Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray et bravo Olivier Benkemoun, vous êtes dans ce studio.
Oui,
pourquoi je m'adresse à vous? Ben oui, parce que vous allez prendre la suite de Culture Média la semaine prochaine. Moi, c'est ma dernière de la saison. Vous allez faire quoi et quel programme dans Culture Média?
On va faire à peu près la même chose. On va continuer à parler de médias.
Mais mieux.
Et, très différemment. Très différemment, mais non, c'est pas vrai. On va continuer à parler de médias, évidemment, et avoir quelques invités qui viendront avec un esprit un peu d'été. Peut-être Marc Lavoine viendra dès lundi et rendre hommage à Françoise Hardy, par exemple, et vous conseiller une lecture. Vous voyez, il adore Françoise Hardy, vous découvrirez comment et pourquoi. Il a même une correspondance avec
elle. Non, mais elle est toujours de ce monde, Françoise Hardy.
Bien sûr.
Non, parce que rendre hommage, ça m'a fait peur.
Mais parce qu'il l'aime. Il y aura des gens qui aiment. Voilà, on aura Olivia Ruiz qui viendra parler de son nouveau roman, ou Renaud Capuçon qui vous donnera envie de jouer du violon, même vous.
Ouais. Bruno Donnet, je me tourne vers vous. Alors vous allez tous les samedis matins sur l'antenne d'Europe 1. C'est la même question qu'à Olivier. Quel programme?
Alors, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Stéphanie Loire tous les samedis entre 9h et 10h. On va s'intéresser à une question de société, on va tenter de comprendre comment le regard à la fois de l'information et celui de la culture a évolué sur le sujet. On va traiter des sujets très différents, on vous racontera l'histoire des radios libres. On va se demander ce qui reste des punks ou encore ce que notre passion pour les chats raconte de nous. Et puis, je vous ai pris juste un tout petit exemple, par exemple. On va se demander comment le discours sur l'homosexualité a évolué. J'ai demandé à Jérémy, qui est notre réalisateur, de caler un petit son. C'est Fernandel, on est en 1968, écoutez un peu.
Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille.
ça au mariage pour tous et aux questions sur l'identité ou sur le genre. Ça sera ça, Tandem, Philippe.
Ça s'appelle Tandem. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci Olivier. Juste un mot pour dire que c'est pour moi la fin de la troisième saison de Culture Média. Avant de revenir en septembre pour la quatrième, je voudrais remercier toute l'équipe qui a concocté, qui concocte cette émission avec moi jour après jour. Je serais tenté de dire matin après matin. Faut pas compter les heures. Par ordre d'entrée en scène, Louise Bernard pour le journal des Médias. Bruno Donnet, ici présent pour ses télescopages. On a encore bien rigolé tout à l'heure avec Fabien Roussel. Lisa Marie Marquez, son portrait. Et Marc-Antoine Lebray, qu'on vient d'entendre, et ses stories. Derrière le et les micros, je les vois derrière la vitre. Tout aussi indispensable en coulisses, Alice Bluzet, Bastien Collignon, Alice Fosse et Jérémy Hébert et ses équipes. Et il est indispensable que je cite tous nos indispensables. Olivier Benkemoun qui est là, Sébastien Bordenave, Nicolas Caro, Laure d'Autriche et Loïs Goua, Camille Junot, Charlotte Langrand, Stéphanie Loire, Laurent Mariotte, Olivier Pouls et Caroline Speller. Quelle équipe! J'espère qu'on se retrouvera et qu'on vous retrouvera à la rentrée de septembre. D'ici là, vous êtes entre bonnes mains. Donc lundi 9h avec Olivier Benkemoun et bon vent au club de l'été. Dernier mot, juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, c'est bien fait pour vous, je vous remercie. Christophe Blain, on n'a pas eu l'occasion de parler de Blueberry, mais vous savez quoi, c'est pas plus mal, vous êtes en train de le terminer.
Je suis en train de le faire.
Il va sortir à la rentrée.
Un petit peu plus tard.
Invitation lancée. Ah. Bonnes vacances à tous. À plus. Ciao.